Bonjour et bienvenue sur FMR, nous sommes le samedi 18 novembre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui?
Ouais, maintenant!
Le supplément week-end avec l'actu BD, TV, DVD, ciné, baston et une interview de Nikita Mandrika, le créateur du concombre masqué!
Suivi de...
Ça c'est du sport, à 13h les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie!
Et ensuite?
À 15h du mix, non c'est pas du mix, c'est une émission culturelle, qu'est-ce que je dis, c'est scène transmission, à 16h! C'est le potager, je vous jure, on l'a pas fait exprès. 17h, Big Bang. 18h, vie d'ordure. 19h, prothésez-vous. Et je n'ai pas un cheveu sur la langue. 20h, les hétéros et expérience. 21h30, stay tuned. Et vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net, bien sûr.
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Tu vas bien?
Ouais, la pêche.
La pêche, ouais. Là, ça va un peu mieux pêcher, je pense, dressé.
La pêche
Voilà, ça manquait de basse, je me disais aussi. Et ben c'est le supplément week-end, donc avec une interview, on commence ces festivités des 25 ans de radio FMR avec Nikita Mandrika, qui était hier donc en dédicace, donc on l'a rencontré. Mais de suite, comme vous le savez, on commence en musique assez brutalement et sauvagement avec The Go Team. C'est extrait de leur précédent album Lady Flash. Non, c'est loupé, c'est pas le bon. Je me disais aussi, ça c'est une erreur, c'est This Fire. Ouais, ouais, je sais. Allez, hop, oh. On peut se planter des fois, non, non. Voilà, ça c'est le vrai morceau. Oui, je sais, je suis nul, oh, comme d'hab. Ça s'appelle un lecteur CD capricieux. Que voulez-vous? On va le tabasser, ça marchera mieux.
But at day
oui, j'avoue. J'aime maltraiter des fois les objets, et là, celui-là, il aurait mérité une belle fessée pampan cucu, là, pour tout m'avoir calé. C'est une horreur, et du sport vient d'arriver, et on n'a pas encore calé son micro. Voilà, on discute, on est à la bonne franquette. Qu'est-ce que vous voulez? On a reçu l'info très en retard. On félicite les organisateurs. Il s'agit du 20e salon de la bande dessinée de Colomiers et du sport à amener. Oui, Baudouin est l'invité d'honneur cette année puisqu'il y a une expo qui lui est consacrée. Donc, je t'avais prévenu du sport qu'on allait avoir des soucis. C'est pas le bon micro. Bah, essaie pour voir avec le. Avec Takatakata, tu dis ?
Takatakata.
Ouais, on va essayer avec l'orange.
Alors le Takatakata orange.
Voilà.
Ah, ça va mieux.
Ouais, mais peut-être qu'ils l'ont éteint. Oui, Takatakata, c'est Joël Azara, plus exactement, qui en est l'auteur. C'est vrai que Baudouin venait souvent au salon de Colomiers. Il venait régulièrement. Et puis, il a une graphisme. C'est un peintre, hein, de toute façon, plus qu'un dessinateur. Il fait des choses absolument superbes. Donc, on aura vraiment des objets absolument magnifiques.
Essentiellement noir et blanc. Il a fait de la couleur aussi ou non ?
Oui. Ah, j'ai Dupuis récemment, d'ailleurs. Et plein d'autres. Et puis, plein d'autres choses. Et puis, voilà. Et je pense que Thomas va y aller. D'Edmond Baudouin.
Ah, de Baudouin,
Oui, il a fait de la couleur.
Et d'ailleurs, il a fait une performance murale à l'occasion de ce salon de la BD, figure-toi.
Hier ?
Non, à partir de jeudi, là.
Ah, donc,
performance murale d'Edmond Baudouin.
Mais apparemment, il sort ses pinceaux aussi pour un work in progress demain.
Ouais, et auteur de l'affiche également, hein, du festival de BD de cette année.
Ah oui.
La prochaine fois, on féliciterait quand même l'équipe organisatrice pour vous envoyer les infos à temps, puisque là, on a été pris un peu de court. Oh, ça arrive.
Ouais. Là, j'ai le programme, hein, quand même, je vous en parlais.
Ah oui, très bien.
Ouais,
moi, j'y fais un saut demain, justement. Mais ça
alors, il y a également Willem qui est présent. Ça aussi, il faut le dire.
Dessinateur de presse.
Bon, Willem, hein, c'est quand même un nom. Hein, c'est le canal historique Harakiri, Charlie Hebdo, tout ça, quoi. Hein, Willem. Et alors, ça commence cet après-midi au Lecamage, de 14h à 20h. Alors, il y a initiation à la peinture, à l'aérographe. Il y a à 16h, pause café à la BDTech et rencontre avec les éditeurs indépendants, animé par Bruno Canard. Et 18h, hommage à Joël Azara.
Il y a Bruno Canard ?
Bah ouais.
Ah. sort un peu.
Ouais, à la salle Gascogne, Lydia. Attends, voir que je te choisisse ces trucs. Bah, c'est les trucs qui ont commencé ce matin. Hein. Ça a commencé ce matin à 10h du mat ou à 11h. Un petit peu plus tard à 11h30, 15h et 17h30, visite commentée de l'exposition d'Octave et le Cachalot, et tu en parlais, de 14h à 18h, atelier BD pour les enfants et la sérigraphie, hein. Et il y a également la musique du dessin au centre culturel. Alors il y aura le vernissage de l'expo L'encre vive de Baudouin, également le spectacle Le chant des baleines, c'est au centre culturel des Colomiers. C'est à 12h, donc là, bah, si vous n'y êtes pas, vous êtes un petit peu vernis marron, quoi.
Et ils annoncent les auteurs présents ou non ?
Eh bien, par Joël, c'est-à-dire les deux grosses vedettes, plus Willem, hein, c'est tout, hein, tu vois. C'est vraiment tout ce qu'il y a, quoi.
D'accord. Bon, le reste, ils ne sont pas annoncés.
Voilà.
On va entamer la bande dessinée, je pense. Puisqu'on est
quelle
déjà
transition
bien
parti.
Vous êtes sur FMR, on n'est pas des pros.
Ouais. Et ça coûte 5€ l'entrée pour les adultes. Mmh. Hein, donc vachement moins pour les enfants, quoi.
Ouais, mais c'était déjà payé
2€ pour les enfants.
Sachez aussi qu'il y a eu un concours de BD qui a été organisé aussi, et qu'il y a deux invités qu'on a reçus donc dans cette émission, qui sont Sabrina et Chris, qui ont participé. Donc les résultats ont été promulgués ce matin. Ah. Et on ne sait pas encore s'ils ont gagné quelque chose.
D'accord. Je crois savoir du sport que tu as eu un heureux événement dans ta famille.
Ah bah ouais. Non, c'est pas un heureux événement, hein, c'est simplement un anniversaire, voilà.
on va lui souhaiter.
Ouais, mais un peu plus tard, parce qu'il attend que je commence à causer dans ma rubrique pour des fois.
Ah d'accord, ok.
Ouais,
merci Adrien.
Un petit peu de calme et de douceur. Nikita Mandrika, le concombre masqué, le bain de minuit. On en a parlé la semaine dernière. Eh bien, il est sorti hier aux éditions Dargaud. Et justement, alors que paraît en librairie en même temps l'intégrale des aventures du concombre masqué, paru dans Pilote, aux éditions d'Argo, là aussi, et ben Gilles Ratier de l'Écho du Centre, pardon, Célestin Susbonbon de la Sentinelle des Ardennes frappe à la porte d'un fort situé quelque part au bout du monde. C'est dans ce château que le maître du monde des missionnaires, le concombre masqué, s'est retiré pour faire plancher sa sagesse éternelle sur son prochain ouvrage, Le travail, c'est inconnu. Malheureusement, la situation est grave, la révolte gronde, il n'y a plus d'eau chaude. L'usine à gaz que le concombre a hérité est en effet en panne à cause d'un glabougnot, ce qui cause un gros problème, une forte accumulation de problèmes, justement. Alors, je vous préviens de suite, je refuse de chroniquer la suite et ne me dites pas que c'est une redite. Reprenant le rôle du journaliste du début, je suis allé voir hier l'auteur qui était en dédicace à Toulouse, à la librairie Album et Dessiné, le jour où sort justement son nouvel album. Hasard pur ou probabilité calculée, pour en avoir le cœur net, j'ai mené mon enquête, j'ai donc mené une interview toute professionnelle. Nikita Mandrika, hier à Album et Dessiné.
Je vous rassure tout de suite, hein, monsieur. Monsieur Mandrika, je n'ai pas lu votre bouquin et bien évidemment, je n'ai absolument pas préparé l'interview pour te dire, je l'ai griffonné en 5 minutes, un peu rapidement. Donc voilà, il n'y a rien à dire, ça tombe bien. Bon, on va y aller. 3, 4, on coupera au montage, tu parles. En décembre 1981, Pilote mensuel couvrait sa une sur le retour du concombre masqué et à la recherche du Blue Chart. Blutschlarg, Mordoré. Je suis sûr que vous l'avez fait exprès. Faire des noms si improbables. Le même mois à Toulouse, Feller, les premières perturbations de Radio FMR, petite radio où j'officie bien évidemment. 25 ans plus tard, quasi exactement, le supplément week-end de Radio FMR a le plaisir de recevoir Nikita Mandrika, cultivateur du concombre masqué, justement pour le retour de son super légume fétiche. Mais avant que je pose la première question, tout de suite un mot de notre sponsor. Ce blanc vous était offert par le Bretzel liquide. Mandrika, bonjour.
Bonjour.
14 ans après, le concombre masqué revient dans un nouvel album. Et vous, justement, qu'est-ce que vous avez fait?
Qu'est-ce que j'ai fait, quoi, entre-temps? Oh, ben, j'ai fait un peu de publicité, j'ai fait un peu d'écho des savanes, je me suis occupé de Pilote. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié la peinture pendant 5 ans pour apprendre à faire mes couleurs.
Serait-ce quelque part un syndrome hergéen?
Oh là là, il faut poser des questions extrêmement culturelles. Là.
On est une émission à peu près culturelle. Hein.
C'est quoi? On n'est pas dans la Drôme?
Ah non, mais Hergé avait tenté lui aussi d'apprendre la couleur et de devenir un pompe de l'art, carrière déçue.
Bon, je croyais qu'il était juste un amateur d'art moderne.
Il avait peint. Ouais. Le concombre masqué, c'est de la poésie surréaliste, c'est du non-sens quasi britannique et c'est un personnage que vous avez créé sous le pseudonyme de Calcus il y a 40 ans. Qu'est-ce que vous avez motivé à l'époque pour le créer?
Le non-sens, justement, parce que j'aimais beaucoup les frères Marx, j'aimais beaucoup Alice au Pays des Merveilles que j'avais lu quand j'étais tout gosse. Et les mots inventés, les mots valises, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis après justement j'ai commencé à faire une analyse en 66 je crois, pendant que j'étais en train de faire le concombre, et je me suis aperçu que sur le divan on nous demandait donc de faire des associations libres qui consistaient à dire n'importe quoi. Et en disant n'importe quoi, on trouvait beaucoup de choses sur le réel, sur la réalité. Et alors donc, ça m'a poussé à aller de plus en plus dans le n'importe quoi pour révéler ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, quoi.
C'est un peu le côté écriture automatique.
Écriture automatique, c'est-à-dire qu'en fait, l'inconscient se révèle dans les jeux de mots, les ratés du langage. Et plus c'est drôle, et plus c'est vrai. Donc j'en ai conclu que pour être drôle, il fallait absolument raconter n'importe quoi. Voilà, donc j'ai continué dans ce genre de choses.
Et maintenant, vous continuez, c'est toujours pour les mêmes motifs?
Oui, alors maintenant, justement, pour inventer mes histoires, je repère toutes les métaphores que j'entends à la radio, comme par exemple faire avancer les choses. Alors, j'avais même entendu une fois une interview de Sarkozy par cette dame là, la belle brune qui était à TF1 là.
PPDA?
Non, la belle brune.
Daniel Bilalian?
Mais non, la belle brune aux yeux verts qui était.
Pierre Chazal, oui, on s'ouvre.
À 19h, qui interviewait toutes sortes. Anne Sinclair.
Ah oui, mais Anne Sinclair, c'est la copine à DSK.
Et qui avait demandé à Sarkozy pourquoi êtes-vous rentré en politique? Et il a répondu cette phrase admirable: pour faire avancer les choses. Alors là, j'ai vu immédiatement une image avec Sarkozy avec un fouet et des choses, des cafetières et tout ça, qui dit: ah, vous voulez avancer? Eh bien, on va y aller, les gars. Et hop, à coup de fouet, il le faisait avancer.
Il a eu le prix, l'an dernier, il a eu le prix de l'humour politique pour cette phrase absolument admirable aussi: je ne suis candidat à rien. C'est magnifique.
Ça, c'est magnifique aussi, c'est absolument magnifique. Il a tout compris, il faut être candidat à rien, parce que lorsqu'on est candidat à rien, tout le monde est absolument rassuré qu'il ne va rien faire. C'est d'ailleurs ce que fait notre président Chirac actuel, qui a très bien compris la chose. Et moi, à mon avis, c'est lui qui va gagner les prochaines élections, parce qu'il va se présenter en disant: maintenant, vous êtes sûr que si vous m'élisez, je ne changerai rien.
C'est vrai que ce serait magnifique.
Parce que chaque fois qu'il change quelque chose, tout le monde descend dans la rue et fout le bordel, ça suffit.
Bon, alors si on en est dans ce cas-là, dans ce genre d'allusion, on va sauter quelques questions, on va aller directement au cœur du problème de l'album, à savoir justement le canon à problème. Est-ce que d'après vous, il serait plus utile au PS ou à l'UMP?
Non, il est surtout utile pour les entreprises qui ont des problèmes, justement, elles délocalisent comme ça, elles délocalisent les problèmes à l'extérieur. C'est comme à la Poste, depuis qu'on l'a privatisée, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup moins de guichets, c'est comme dans les banques aussi. Et donc vous, ça vous fait perdre beaucoup plus de temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Donc ça fait gagner de l'argent à l'entreprise. Et ça veut dire qu'elle exporte ses coûts derrière le guichet et c'est vous qui payez.
Donc elle envoie les problèmes à coups de canon. Toujours sur l'album, on retrouve un représentant de l'ordre des cucurbitacées anonymes, Nabab, pédant, qui n'a jamais connu le travail et qui pourtant prétend faire un guide là-dessus. Il y a un clin d'œil à Achille Talon quelque part.
Ah non, ça, c'est possible qu'il y ait un clin d'œil, mais moi, c'était pas volontaire.
Ou à Philémon, dans le coup de la baignoire et de la quête de l'eau chaude.
Non, c'est pas ça exactement. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si vous prenez. Si vous exprimez par métaphore, avec des jeux de mots, plus la chose est n'importe quoi et compliquée, et plus le lecteur y voit ce qu'il veut y voir. Ce qui fait que c'est d'un opportunisme total, parce que moi j'arrive à faire des images où les altermondialistes se reconnaissent et pensent que je suis pour eux, et ceux qui trouvent ça complètement ridicule pensent aussi que je suis d'accord avec eux. Ce qui fait que je réunis aussi bien la droite que la gauche, que l'extrême gauche et tout comme lecteur.
Vous êtes consensuel, vous vous présentez?
Je suis totalement consensuel. Totalement. Et même œcuménique.
C'est magnifique ça.
C'est magnifique. Et je pense qu'il ne faut surtout pas confondre l'acupuncture avec la punk culture.
Celle-là. C'est extrêmement sympa pour les 25 ans. Moi, je vais revenir à votre carrière, puisque vous avez commencé dans la revue Vaillant.
Un 1er avril.
Ah, ça ne s'invente pas, ça. Puis vous êtes passé chez Pilote, vous avez co-créé l'Écho des Savanes. J'en oublie tout plein. Il y a eu un passage à Spirou. C'était quoi être auteur à l'époque des grands magazines BD?
C'était formidable, parce que parce que c'était des journaux qui étaient tenus par des rédacteurs en chef qui avaient un très très large public, parce qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo, donc ils étaient sûrs de pas tomber en faillite s'ils mettaient dans leur journal quelqu'un qu'ils aimaient bien, même si les lecteurs n'aimaient pas. Donc c'était fabuleux pour moi. Parce que moi, à l'époque, à Pif, il y avait des gens qui aimaient bien, mais il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça du tout. Et à Vaillant, eux, ils aimaient bien ce que je faisais, donc ils le passaient quand même. Et c'était les premiers à se jeter sur les planches quand ça arrivait.
Il y avait vraiment une concurrence.
Après, il y a eu Goscinny qui, lui, avait beaucoup de succès avec Astérix et avec les autres séries comme Blueberry, comme toutes sortes de séries vedettes. Donc, il prenait aussi beaucoup de dessinateurs, d'auteurs qui n'étaient pas forcément appréciés complètement et il les soutenait. Et ça, c'était formidable. Alors qu'après, quand les magazines ont disparu, un album, il faut qu'il se vende de toute façon, hein. Donc c'est beaucoup plus difficile maintenant pour un éditeur d'éditer des choses qu'il aime, même si les lecteurs n'accrochent pas tout de suite.
Ce qui est intéressant justement, c'est que actuellement il y a un renouveau de la création, elle est sur le net, il y a pas mal de blogs de BD comme Maliki et tout ça, et justement le Concombre Masqué, Combre du Pédantisme, a son propre blog, leconcombre.com. C'est une concession au monde moderne, c'était vraiment une envie d'expérimenter de votre côté?
Non, c'était justement, c'était une époque trouble, très trouble pour moi, parce que j'avais pas fait d'album depuis longtemps, et donc j'avais disparu des librairies, de la circulation et même de l'esprit des gens. Donc je me suis dit, l'internet c'est formidable parce que c'est de la prépublication où je n'ai même pas besoin de passer dans un journal, je n'ai pas besoin d'éditeur, je peux faire exactement ce que je veux et je peux le publier, les gens peuvent le voir, l'apprécier ou pas, s'ils n'aiment pas, mais au moins je peux exister. Et c'est pour ça que je me suis dit, même si je n'ai pas d'éditeur, je commence à faire une nouvelle BD du Concombre, j'ai fabriqué mon site moi-même, j'ai tout appris, j'ai fait des animations en flash, j'ai appris à servir de Dreamweaver, en fait, Photoshop et tout ça. Et j'ai fait une espèce de feuilleton chaque semaine. Après, c'était chaque 15 jours, après, c'était chaque mois. Mais toutes les pages que je faisais, je les mettais sur le site pour que les gens le voient, avec à suivre un feuilleton. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, j'ai retrouvé le public qui connaissait déjà le Concombre, plus des gens qui ne le connaissaient pas du tout, des jeunes qui utilisaient d'ailleurs les cartes postales que je faisais pour s'envoyer des messages. Et j'ai reconnu que c'était des jeunes parce qu'il y avait le langage jeune, n'est-ce pas, avec LOL.
Non, on dit MDR, on est en France.
Ah, oui, non, mais je suis un peu en retard là. J'ai pris un peu de retard.
Et d'ailleurs, c'est une curiosité, sur ce site, on entend le Concombre chanter. C'est quoi? C'est la Starac ou c'est à la recherche de la nouvelle légume?
Non, mais c'est que j'ai gratouillé la guitare. Là. Je gratouille la guitare depuis que j'ai 25 ans et je ne suis jamais arrivé à faire une suite d'accords. Mais et surtout, j'arrivais pas à chanter. Je sais pas ce qui se passait. Et puis dernièrement, j'ai trouvé une combine pour arriver à chanter. Je suis arrivé à chanter en appliquant les méthodes de Mick Jagger, qui a expliqué ça dans une interview. Et je me suis dit, mais tiens, mais j'aimerais bien faire des chansons extrêmement débiles et les mettre d'abord dans l'album, parce que comme ça, je suis toujours l'avant-garde. C'est-à-dire, je crée la première bande dessinée comédie musicale au monde, où le Concombre s'exprime lui-même en chanson, et c'est moi qui chante. Et donc j'ai trouvé les mélodies, j'ai trouvé les accords, j'ai chanté, j'ai enregistré ça avec GarageBand, et puis je me suis dit, je vais les mettre sur le site, avec le texte de la chanson avec les accords. Et maintenant j'essaye, dans un logiciel qui s'appelle Guitar Pro, de le mettre en tablature. Comme à l'époque des folk songs de Bob Dylan de 68.
Je vous rassure, on a les MP3, on les a pompés sur Peer-to-Peer, on osera les diffuser, vous n'aurez pas honte.
Tout à fait. Je l'ai mis sur Peer-to-Peer.
Ça marche?
Ben oui, il y a des gens qui l'enregistrent, c'est extraordinaire. Et j'ai mis aussi des chansons de Philippe Murray, parce que Philippe Murray a aussi mis ses textes en musique avant de mourir, heureusement. Mais il est mort, le pauvre. Oh là là, il va nous manquer.
Je vais hélas interrompre ce moment d'émotion par une question en régie, oui, puisque j'ai une oreillette, c'est une question à un auditeur. Est-ce qu'un concombre masqué se cuit à l'étouffée?
Oh non, non, écoutez, vous êtes vraiment sadique. C'est pas possible, non, 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 je suis contre, absolument.
Bon, d'accord, je suis désolé, monsieur Mandrika, on va arrêter là de suite.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
C'était Mandrika, donc hier, qui était en dédicace à la librairie Album BD Ciné pour la sortie de son nouvel ouvrage qui s'appelle Le Bain de Minuit, donc après 14 heures d'absence chez Dargo. Et que dire, c'était quand même une très grande interview. C'est un très très grand monsieur qui a été Grand Prix de la ville d'Angoulême en 91 ou 92, je ne sais plus.
Non. C'est... Moi j'y étais en 93, il a eu... C'était en 93.
PC en direct, d'accord. Voilà. On va enchaîner sur la bande dessinée, sinon on a... si je vais pas avoir le temps. Et promis juré, on vous passera la chanson du concombre masqué en cours d'émission, voilà. Parce qu'à 12h30 pile, on va se faire couper par la pub. J'ai très peu de temps pour envoyer la suite, donc on y va, quoi. On y va avec une enquête policière extrêmement intéressante. Oui, l'horloge est particulièrement pénible à lire. En plus, moi, j'ai les reflets, donc c'est inutilisable.
Ouais, je suis en train de voir, parce que même il y a la position de la lune, carrément. Quoi.
Ouais, mais voilà, ce qui paraît, c'est pour un demi-heure. On peut y aller, je vous prie. Donc, en direct.
Mais il la change toutes les semaines, en plus.
Non, elle est là, l'autre, elle est en panne. Philippe Cohen au scénario, Richard Malka au scénario aussi, Rhys au dessin, la face carchée de Sarkozy, c'est, vient de sortir en coédition chez Vent d'Ouest et Fayard. Et puisque justement dans l'interview nous parlions de notre ministre de l'Intérieur bien-aimé, président du parti unique de la droite et candidat à la succession de notre président, nous allons donc une fois au moins dans cette radio de gauchistes médisants, oui, donc une fois cette semaine sur notre antenne, parler de lui alors qu'on nous a gavé de Ségolène Royal en haut de l'affiche, son nom en trois fois plus grand que celui de François Mitterrand, donner la parole à l'opposition au pouvoir en parlant de Nicolas Sarkozy. Ce livre qui se proclame première BD enquête est une étude vraiment passionnante sur cet individu hors norme. Les citations sont réelles, les anecdotes croustillantes. Et l'un des scénaristes est auteur de La face cachée du monde, l'autre est avocat de Charlie Hebdo et de la société Clearstream. Quant au dessinateur, on le voit régulièrement officier dans la presse à scandale comme Charlie Hebdo. Et on apprend énormément de faits sur son irrésistible ascension politique, de sa jeunesse difficile dans la ville très défavorisée de Neuilly, à sa capacité de travail faramineuse, sans oublier le bilan comptable du nombre de passages dans les JT de 20h. Fidel Castro vient d'ailleurs de concéder le forfait pour raison médicale. Nicolas Sarkozy ne fait rien par hasard, tout par calcul, et faut avouer qu'il est très fort à de très 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 rares erreurs près. Puisque, par exemple, cela lui a valu quand même une très longue traversée du désert, on parle de bac à sable dans le bouquin, après la défaite cuisante d'Edouard Balladur. Pensez qu'il a réussi en à peine 30 ans, alors qu'il a à peine 30 ans, à souffler la mairie de Neuilly à Charles Pasqua. C'est pas tout le monde à l'époque, on est au début des années 80, qui aurait osé le provoquer. Bon, soyons honnêtes. Ce livre manque sérieusement de neutralité, il est même franchement à charge. Pour ne pas dire qu'il lui est hostile jusque dans la postface, je cite « L'Élysée n'est pas le château de Moulinsart, Nicolas Sarkozy doit rester dans le rôle qui lui convient le mieux, celui d'un personnage de fiction, vu à la télé mais pas à l'Élysée. » Écrire ça, c'est quand même être d'un parti pris particulièrement hostile et qui heurte mes convictions de droite, alors que l'œuvre politique de Nicolas Sarkozy est quand même admirable. Non Thomas, c'est normal que le téléphone soit décroché, c'est normal. Résumons, parti de bien bas, de moins d'1m65, cet homme a, à force d'assassiner politiquement ses parrains, de trahir ses amis, de médiatisation forcée, de retournement de veste et de publicité, inversé le mode de fonctionnement démocratique en mettant la charge ministérielle à son service. Et ceci tout en arrivant à se hisser à la tête d'un parti politique qui n'a qu'un but, permettre de faire élire comme président de la République un autre que lui. Eh oui, Alain Juppé doit encore s'en souvenir. C'est quand même fort qu'un ministre de l'Intérieur arrive à faire de la pub pour un nettoyeur à eau forte pression, comme les canons à eau des CRS, alors que sa spécialité c'est plutôt le nettoyage par le vide. Si ce n'est pas de la réelle politique, alors Tony Blair fait dans le socialisme. Philippe Cohen et Richard Malka, le dessin est de Rhys, la face carchée de Nicolas Sarkozy, c'est chez Vent d'Ouest et Fayard. Oui, 12h30, je m'en fous de la pub, on continue. With forecast of sub-zero temperatures, with tomorrow's forecast for continued mild. Continued mild? Et oui, c'est une très belle somme de Agnès Jihar, l'imaginaire érotique au Japon, qui doit faire dans les 300 pages, qui n'est pas excessivement cher, donc qui vient de sortir chez Albin Michel. Oui, je sais, je n'ai pas le droit d'en parler avant 22h30, ben tant pis. Agnès Giard a débuté dans les prosines sur les mangas et écrit depuis régulièrement pour Technic, Art, Elle, Playboy, L'Écho des Savanes et aussi pour la presse japonaise. Elle s'est faite une spécialité sur les contre-cultures, l'art déviant et l'underground japonais. Dans ce livre, très richement illustré, elle dépeint tous les fantasmes existants dans l'Empire des Sens, la commercialisation du sexe... Ouais, vous pouvez y aller les filles, pour une fois je vous autorise. Voilà. La créativité technologique et artistique, ce livre est extrêmement complet, graphiquement explicite, au point de rejoindre directement votre petit enfer, E majuscule, personnel. Oui Thomas, vous savez le rayonnage de bibliothèque spécialement conçu pour que les enfants n'y tombent pas dessus. Que cela soit dans les estampes traditionnelles, la littérature, l'érotisme est déjà fortement présent dans le Japon. La nudité, par exemple, n'est tabou qu'à partir réellement de 1950 et les bains ne sont plus mixtes au début de l'ère Meiji en 1870. Au point qu'elle est institutionnalisée puisque, par exemple, les hommes d'affaires ont une enveloppe pour emmener leurs collègues dans les bars à hôtesses et y emmènent aussi leurs relations d'affaires plutôt que dans les restos huppés. Si les mangas regorgent de pénétrations tentaculaires, si les distributeurs de rue vendent des petites culottes usagées, si les collectionneurs d'uniformes, d'écolières ou de poupées en silicone réaliste aiment aussi le shibari, le bondage à cordes, les concours de vomi et...
Il y a 25 ans, FMR, c'était
ça. Oh non, pas la pub, merde !
Il y a 10 ans, FMR, il y a 10 ans, FMR, c'était ça. Aujourd'hui, éphémère, eh ben, c'est ça. Aujourd'hui, éphémère, eh ben, c'est ça. Éphémère, la radio qui change vraiment pas. Éphémère, la radio qui change vraiment pas. Éphémère, 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 éphémère. Éphémère.
Quelquefois c'est ainsi. Perdre et gagner sans en perdre. Gagner, reperdre et gagner sans s'éloigner de soi-même. Rares les épargnes. On peut à la fois perdre et gagner, telle une triste marie. Perdre et gagner, savoir perdre. Gagner, reperdre et gagner sans s'éloigner de soi-même. Rares les épargnes. On peut à la fois perdre et gagner, telle une triste marie.
Le Lipopète Bar se délocalise au Vent du Sud mardi 28 novembre.
Détendre l'atmosphère.
Quoi qu'il arrive, on est souvent dans la merde.
Ceux qui sont d'eau regardent en oblique.
Oxmo Puccino, accompagné sur scène des Jazz Bastards, nous présentera son nouvel album Jazzy.
Tenez ma carte, venez à ce rendez-vous.
Flow inimitable.
La vôtre se réécoute. Parole de producteur, aucun doute.
Première partie qui défonce, tacite, terroro, stéréotype.
Dans la compréhension. Sombre dans la baisse.
Mardi 28 novembre au Vent du Sud.
Comment était-ce
pour... Tout sera là pour une énorme soirée hip-hop.
Sa propre...
Dans le cadre des 25 piges d'éphémère.
Slant.
Oxmo Puccino.
C'est perdre et gagner, reperdre et gagner.
Mademoiselle, voulez-vous danser? Mademoiselle, voulez-vous danser? Mademoiselle
éphémère,
voulez-vous chanter?
Faites ses 25 ans.
Mademoiselle,
et si vous désirez l'inviter à danser,
voulez-vous danser?
Précipitez-vous au Cléo le 30 novembre.
Mademoiselle, voulez-vous danser avec moi ce soir?
En effet, de 21h à 5h du matin, ce soir-là, les boules à facettes brilleront de mille feux.
Mademoiselle, voulez-vous danser?
Hypnolove, Starlight Boys, Opéra et Lassie en live. J-Error, DJ Tro et Exomiloplatine mettront la fièvre du jeudi soir. Alors dépêchez-vous d'amener votre plus belle tenue disco au pressing car le jeudi 30 novembre pour la soirée anniversaire de Radio FMR, il faudra qu'elle soit nickel chrome.
Pas Soirée des 25 ans de la radio FMR, soirée breakcore, drumcore et hardcore. Avec SKS, Peyo, les Nurgle to Trolls, GVK et Fuel Insect VS De Frey. Les visuels seront assurés par la clinique. L'entrée est au marin d'eau douce, ça coûte 5€, c'est le samedi 25 novembre et c'est les 25 ans de radio FMR. Le cancer, c'est pas sur FMR. Lundi 20 novembre, le Spinto Band sera en concert au Ramier. Ils vous les délecteront de mélodies popesques. Le lundi 20 novembre, au Ramier, Spinto Band.
Éphémère.
Ça c'est pas mal, c'est bien.
C'est bien, ça continue à parler derrière. Je termine sur la bande dessinée avec deux bouquins, Philippe Richel au scénario et Pierre Vax au dessin. Il s'agit de Secret Bancaire, une nouvelle série dont les deux premiers tomes viennent sortir coup sur coup en histoire complète en fait, puisque le tome 1, les associés, et le tome 2, Détournement de fonds, c'est la première histoire et ils vont très bien ensemble. C'est dans la collection Investigation chez Glénat et c'est l'histoire de Jacques Colpin qui est au chômage. Il avait une affaire de sandwicherie snack. Nos employés, ça tournait pas trop mal, mais un jour, l'école en face a fermé, déjà qu'après avoir payé les charges, les impôts, et ben, il gagnait pas beaucoup. Ben là, il a dû mettre la clé sous la porte. Mais c'est un entrepreneur, quelqu'un qui y croit. Tiens, là, il a un projet avec son beau-frère en Croatie, de vieilles pierres à restaurer pour en faire un hôtel dans une région en plein boom touristique. Oui, mais voilà, les banques ne sont pas prêtes à y mettre de l'argent que si il y met, lui, de sa poche 300 000 € dans les travaux. Et quand on est déjà en difficulté, et ben c'est pas évident. Le hasard mettra sur sa route un ancien copain de lycée, Franco. Il se trouve qu'il est justement spécialiste en investissement et qu'après plusieurs tentatives de contact, et ben il lui a trouvé un investisseur qui serait prêt à lui prêter les fonds. Jacques fonce en Croatie, ouvre un compte dans une certaine banque, comme demandé, signe quelques papiers. Le soir à l'hôtel, son pote Franco le prévient. C'est pas 300 000 € qu'il y a sur le compte, c'est juste 10 millions. Ah! Et là, on sait immédiatement qu'il y a un os, que cet argent n'est pas clair, surtout qu'on ne sait pas exactement d'où il vient. Et le lecteur a un très très fort malaise, retourné dans une situation au chômage assez pénible pour la femme et le gamin, ou finalement accepter de se compromettre pour financer son projet, son rêve, repartir d'un bon pied. Ah, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement, et partout où il coule trop, il amène un danger, des craintes, des scrupules, voire pas du tout, et c'est pire. Cette histoire complète est passionnante, c'est un vrai thriller financier, il démonte un système, nous dévoile peu à peu tous les rouages, il nous montre combien la délinquance financière, les voyous en col blanc et billets, et ben... plein de billets. Hein, c'est pratique la coupure de 500 €, c'est pas pour rien que c'est la plus grosse coupure existante sur notre planète. Philippe Richel au scénario, Pierre Vax au dessin, Secret Bancaire le premier tome, Les Associés, le deuxième tome, Détournement de fonds, c'est dans la collection Investigation chez Glénat. La rubrique cinéma vous est présentée en Dolby Bono Surround par Thomas.
Alors aujourd'hui, j'ai une bouse et un film magnifique.
Super.
On va commencer par le film magnifique.
Ah !
Le Labyrinthe de Pan.
Ah !
Oh là là ! C'est un film de Guillermo del Toro avec...
Oh non, pas lui !
Quoi ?
Bon, d'accord,
t'as pas aimé Hellboy, c'est ça ? Moi non plus. et c'est avec Sergi Lopez, Iban Abaquero et Doug Jones. Et ça raconte, l'action prend place en 1944, où une mère part rejoindre son mari, le capitaine franquiste Vidal. Sa fille Ophelia découvre sur place les ruines d'un mystérieux labyrinthe, en ruine et tout. Et alors qu'en plein conflit avec des troupes rebelles, le camp est au cœur des atrocités de la guerre, le faune gardien du labyrinthe apprend à Ophelia qu'elle est en réalité une princesse et qu'elle va devoir subir une série d'épreuves pour reconquérir son trône. Et alors là, on est parti, c'est un festival, le film se décompose en deux parties en fait, qui sont imbriquées, il y a la partie, on va dire, de l'autre monde où Ophelia est entraînée par le gardien du labyrinthe à subir des épreuves avec des espèces de passerelles qu'elle va se créer en utilisant une craie magique, et les parties de la guerre où là Guillermo del Toro, bon voilà, c'est un mec qui a fait pas mal de films fantastiques, et là il va pas avec l'eau de la cuillère pour montrer les jambes qui doivent être amputées, le mec qui est tailladé au couteau à la joue. Et il y va, la caméra s'attarde bien, des gros plans, dans la durée et tout. Donc le mec il y va à 200%. Et par contre les séquences dans l'autre monde quoi, c'est d'une beauté mais fantastique quoi. C'est des tableaux de maître. T'as les détails qui sont super carrés et tout, t'as la mise en scène qui en fait pas des tonnes, c'est pas avec des flashs de partout. Et la tension naît de la bande-son, de la façon de la caméra bouge très lentement et tout. Là, les comédiens qui sont irréprochables, t'as la jeune fille qui est vraiment sensationnelle. Et tu en prends plein les mirettes. T'as un personnage dans le film qui c'est le méchant, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est un mec tout blanc, où il est nucléé, il a deux yeux dans une assiette puisqu'il est dans un banquet. Et en fait, il va se mettre les yeux dans les paumes des mains pour essayer de voir la fille. Et c'est vraiment horrible. Et pourtant, c'est vachement beau. Et ce personnage-là, ça va être le plus saisissant de l'année, quoi. J'ai vu un peu les critiques ou les articles qui ont été postés sur ce film sur le net. Il y a tout le monde qui parle de ce personnage. Et c'est pas anodin.
Il va être dans les méchants awards.
Les méchants, oui. Si on fait une catégorie cinéma, oui, il y a des chances.
On en reparlera.
Voilà. Alors, Labyrinthe de Pan, voilà. J'ai posté un article hier soir où je spoilais abondamment le film pour.
Sur le site de l'émission.
Voilà. Là, je vais pas le spoiler parce que franchement, c'est moins on en dit et plus on va essayer de vous donner envie de voir ce film. C'est poétique, à la fois gore aussi. C'est une ode à l'imaginaire enfantine. Et voilà, tout en sachant que ça parle à si l'heroic fantasy, l'univers des contes de fées vous rebute, n'y allez pas. Et par contre, il faut savoir quand même que c'est très violent. Voilà. Donc c'est le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Moi je l'ai vu la semaine dernière. Je suis encore sous le choc, donc je vous le recommande chaudement. Ça fait pas mal de temps qu'il est sorti, déjà plus de 3 semaines je crois. Donc précipitez-vous-y, vous ne le regretterez absolument pas. On va passer à la bouse, hein. Le Dahlia noir.
D'accord, ok, mais tu me le refais, mais cette fois-ci, oui, vas-y, refais-le.
Tu disais qu'on allait passer à la bouse, le Dahlia noir.
Bon, c'est pas le bon effet.
Je ne comprends pas pourquoi tu as mis un effet robot, ce droïde, sur le Dahlia noir.
Je croyais que t'allais parler de Star Wars. Je sors.
C'est pas le côté obscur, le Dahlia noir. Hein. Alors, c'est une merde de Brian De Palma, adaptée du bouquin de James Ellroy, qui avait.
Ne dis pas que le bouquin est une merde, là. Tu ressens
non,
pas
non, non.
Bah,
de toute façon, je l'ai pas vu. Alors, je l'ai pas lu, donc au moins, je parlerai pas si c'est une bonne adaptation ou une mauvaise. Je parlerai que du film. Et alors, moi, par contre, je sais que j'ai vu quand même L.A. Confidential. C'était quand même de notre calibre. Déjà. Dans le Dahlia noir, bon alors tu vois le casting principal, Aaron Eckhart, bon j'ai jamais trouvé transcendant ce mec, il faisait le méchant dans Paycheck de John Woo aussi, il était transparent au possible. Là franchement c'est pas celui qui s'en sort le moins bien. Josh Arnett, alors lui vous l'oubliez, il transmet...
Mais ça fait des années qu'on l'oublie lui. Hein.
Déjà il avait tourné dans Pearl Harbor, on savait même pas qu'il était dedans.
Ouais mais il avait fait un truc avec... Harrison aussi, je crois.
Harrison Ford.
Harrison Ford.
Ouais, je crois.
Un duo flic.
Oui,
pareil,
oui,
hein.
Voilà. Bah lui, voilà, c'est, il est lisse du début à la fin. Scarlett Johansson, franchement, bon, bah elle, elle a pas grand-chose à faire. Elle est juste là pour faire l'héroïne blonde, femme fatale. Donc bon, bah elle sait faire ce qu'on lui demande, hein, c'est-à-dire se faire baiser et être un peu mystérieuse quand même. Et t'as, bon, on a Hilary Swank. Bah alors là, du sport avait raison quand on a un peu parlé d'Alia Noir sans l'avoir vu la dernière fois. Effectivement, elle relève le niveau. Puisque elle est quand même un personnage assez important, et puis elle joue un peu de sa d'une noirceur, elle apporte un côté assez négatif au personnage qui est assez voilà qui est sympa. Alors par contre le rôle, on va dire que qui s'en sort le mieux, c'est celui d'Elizabeth Short, Mia Kirchner. Alors là on la connaît depuis Exotica et depuis ses multiples apparitions dans la série 24, mais celle-là, mais elle a des yeux. Elle joue le rôle d'Elizabeth Short, la comédienne qui se fait assassiner. Et justement, Brian De Palma l'a fait tourner, il a commencé à tourner certains plans avec elle. Il a été tellement subjugué par son jeu qu'il a demandé au scénariste d'étoffer son rôle et de multiplier ses apparitions. Puisqu'en fait, le film, il y a quand même des traces de ses multiples essais pour jouer dans un film. Et on voit l'enquêteur principal en train de regarder les rushs. Et puis voilà, elle fait quand même l'apparition dans le film, même si elle est morte depuis le début. Pourtant, c'est étonnant quand même ce film qui soit un tel ratage. Bon, l'action se passe dans le Los Angeles des années 50 et on suit le parcours de Monsieur Feu et Monsieur Glace. Ce sont deux flics boxeurs qui sont portés au nu par les médias puisque ils font un peu de pub à la police. Ils enquêtent donc sur le meurtre d'une apprentie actrice qui a été défigurée, la bouche tailladée, voilà.
Coupée en deux et viscérée, on vous épargnera les détails.
Voilà. Et alors par contre, là où je suis vachement surpris, c'est que tout en fait s'inscrivait dans la logique de la carrière de De Palma. C'est-à-dire que t'as la blonde, la brune, tu as la référence, t'as la Scarlett Johansson qui est dans la droite lignée des héroïnes Hitchcockiennes, puisque bon, De Palma évidemment il a fait toute sa carrière quasiment en plagiant Hitchcock.
On dit pas ça, on dit en rendant hommage.
Voilà, voilà. Oui, bon, même si ce sont des excellents hommages, hein, mais bon. Il y a la trahison du meilleur ami, il y a les références cinéma à l'intérieur, puisque si elle a le visage taillé, c'est en hommage à L'Homme qui rit, le film qui avait déjà inspiré d'ailleurs le Joker, dans Batman. Il y a la fascination pour une femme morte, puisque le flic, Josh Arnett, est fasciné par le passé d'Elizabeth Short. Ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les précédents films de Palma, dans Pulsion notamment, qui était un hommage à Psychose, dans Blowout aussi, puisque le mec est tourmenté par la fille qui se fait assassiner aussi. Tout, en fait, c'était un film vraiment de palmesque au départ, sauf que le mec, on dirait que c'est un stagiaire qui l'a fait à sa place et qui dit, tiens, si De Palma faisait ça à ma place, qu'est-ce qu'il ferait ? Alors en fait, on a des plans séquences vachement timides, c'est-à-dire qu'avant, tu fais, tout le monde a en tête le plan d'ouverture de Snake Eyes qui faisait un quart d'heure. Mais là, t'as le plan séquence avec une grue, voilà, ça tourne autour d'une rue, ou alors à un moment donné, t'as un plan en vue subjective où le flic rencontre la famille de sa copine. Bon, là, ça dure 2 minutes et demie à peu près. Tu dis, ah, De Palma est revenu, ah non, c'est fini déjà. Il y a un meurtre dans un escalier. Bon, alors évidemment, De Palma, fan de Hitchcock, tu dis, ouais, ça va, il va accentuer les perspectives, il va faire développer la scène, distorsion du temps et tout. Que dalle! Il y a une musique un peu à la De Palma derrière, ça se tire un petit peu en longueur par rapport au reste du film, et c'est tout. Voilà, tu commences à voir qu'il y a une petite des prémices de palmesque à l'intérieur, mais non, ça repart aussi vite que c'était arrivé. C'était un pétard mouillé. Et voilà, c'est une grosse merde. Franchement, moi je me suis fait chier devant le film. Je me suis dit, voilà, De Palma, même quand il fait des bouses, il y a quand même des trucs à en tirer de ses films. Même Femme Fatale, on va pas dire que le scénario était d'une intelligence frappante quand même, parce que c'était un scénario de la boutique, franchement, parce que c'était une histoire complètement à dormir debout. Ouais, en fait, j'ai rêvé toute la moitié du film. Tiens, j'ai rêvé ta vie. Tu vas pouvoir t'en sortir si tu vas prendre tel avion, etc. Et alors que, franchement, c'était un festival de moments de cinéma. Ce film, t'as la scène d'intro qui était énorme. Bon, en plus, t'as Rebecca Romijn-Stamos à l'endroit, à l'envers, de partout où il la filme. Donc, c'était assez pas mal, mais le film est quand même assez moisi. Snake Eyes, t'avais le plan d'ouverture, il était quand même de bonne facture, même si c'était pas un des meilleurs qu'il ait fait. Voilà, bah, il s'en sort à chaque fois. Mais là, non, il n'y a rien à tirer. Franchement, moi perso, on a le droit d'être de notre avis, mais je sais pas. Moi, je me suis vraiment ennuyé devant ce film. Donc, c'est le Dahlia Noir de Brian De Palma. Et voilà. Allez voir le Labyrinthe de Pan.
Et pendant ce temps-là, le jour se lève sur Abilene, une chanson du concombre masqué interprétée par Mandrika Nikita.
Le jour se lève sur Abilene. Ma mère m'a dit, mets ta petite laine. Et pour se donner du courage sur le chemin de l'usine, elle chantonnait en plein orage cette comptine de la Martine. Au travail Sainte-Loi du monde, ton mystère va s'accomplir pour rendre la glèbe féconde. De sueur il faut la mollir. Ma mère m'a dit, vis ta vie, vitamine, ne travaille jamais. Et depuis ce jour, ça me turlupine. Je n'ai pas compris ce qu'elle me disait. Il faut pourtant bien que je turbine tous les jours que le bon Dieu fait. Quand arrive le matin, je repars au turbin. Et le soir, quand je m'endors, j'en rêve encore. Laissons courir Pierre qui roule. Pourquoi faut-il moudre du grain? Pourquoi tant de labeur? Pourquoi tant de sueur? Notre Père qui êtes aux cieux, accordez-nous votre pardon. Ô Dieu miséricordieux, libérez-nous de cette malédiction. Le jour se lève sur Abilene. Ma mère m'a dit, mets ta petite laine.
Je me suis planté.
Ouais. Recale-le.
Ah, je sais, voilà. Recaler. Et okay. Zou. Enfin, bonjour, ceci dit, à du sport pour la partie télévision sur FMR. Il est 12h55 et 42 secondes.
Une partie télé qui commence par la BD. Kaamelott, on la connaît, hein, cette superbe émission comique qui a lieu pratiquement tous les soirs, là, c'est tous les soirs de la semaine sur M6.
Grand tour.
On en est à la saison 2, là, pour l'instant. Enfin, c'est des rediffs, de toute façon.
3, je crois.
3, ouais.
Le coffret qui est sorti cette semaine.
Alors, justement, le DVD Livre 3 est sorti depuis le 8 novembre, hein, ça fait une dizaine de jours, quoi. Mais par contre, le 27 novembre, la semaine prochaine, sort chez Casterman la BD tiré d'une histoire inédite, hein, c'est-à-dire qui n'est pas tiré d'une histoire qu'on a pu voir à la télé, mais c'est une histoire complètement inédite qui s'appelle L'armée des nécromans. Kaamelott.
Ok, ouais, ça sort donc la semaine prochaine. C'est vraiment le scénariste originel où tu as pas trop
j'ai
de détails.
J'ai pas plus de détails que ça.
C'est Alexandre Astier.
Il y a Astier dans le coup, de toute façon, donc.
Mais lequel
Alexandre Astier, quoi. Bon, ok.
Ils
quoi,
sont
quoi,
plusieurs.
Le boss. Alors là, maintenant, tu peux mettre ta musique, tu vois, quoi.
«
Et il est question d'anniversaire. Alors tout d'abord, Adrien, joyeux anniversaire. Et
joyeux
c'est
anniversaire,
également...
Adrien.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire également à Gulli, la petite chaîne pour les enfants qui a un an.
Et qui est la cinquième chaîne en audience quand on est à TNT. C'est la première chaîne la plus regardée sur la TNT.
Bah ouais, parce que c'est la chaîne des gosses. Hein.
Bon, elle est seule. Elle est seule et elle a une très bonne prog.
Ouais, il y a une programmation qui est pas trop dégueulasse, c'est vrai. Avec c'est... foot de rue, par exemple, la musique en écoutant, en musique de fond. Foot de rue, donc, fait par Akhenaton et toute la bande, le générique, hein. Sinon, bah ouais, hein, ça.
Ah, Eugy, les cafards, ça, on l'attend. Ouais, ouais, ouais,
alors,
ouais.
Pour exemple, cet après-midi à 17h15, il y a foot de rue, donc. Suivi à 17h40 du Will Squad. Et une émission.
Grandiose.
Ouais, ouais, Will Squad, c'est pas mal aussi. Bon, ça s'adresse déjà à des.
Comment ça, j'ai 32 ans, ne fais pas chier, toi.
Ça s'adresse déjà à des gamins un petit peu plus âgés, hein, genre 5-6 ans, quoi, on va dire, à partir de 5-6 ans, quoi. À 18h, il y a une émission spéciale qui s'appelle Les Gullis d'Or. Et là, les téléspectateurs et téléspectatrices de Gulli depuis un an ou un petit peu moins, eh ben, ont voté pour élire leur série préférée, leur programme préféré de qui passait sur Gulli, donc il va y avoir des trucs spéciaux, hein, de toute façon. À 19h15, OG et les cafards. OG, c'est l'un des deux chats, il y a Jack, l'autre chat, et il y a les cafards qui portent les noms, les mêmes prénoms que, c'est les prénoms des Ramones, hein, en fait, faut le savoir, quoi. Il y a Joey, il y a Marky, il y a Didi.
Ah, hein, d'accord.
C'est les trois cafards, donc.
Ça va bien avec leur mode de vie, hein.
Ouais, c'était également le, bon, comme les Ramones, hein, voilà, quoi, c'est ça. Toujours la même production à 21h, les Zinzins de l'espace, alors là, à pas louper. C'est production du Pontaviche, et là, les Zinzins de l'espace, en plus, a une musique de générique faite par Iggy Pop, spécialement, hein, plus pour le truc, pour l'émission. Donc ça c'est à 21h ce soir. À signaler également que Gulli est la chaîne qui passe est la seule chaîne qui passe actuellement Gilmore Girls, une excellente série sur une la vie d'une nana.
C'est pour les filles.
Pas que hein. Bah écoute, ça correspond un petit peu, hein, au programme tel que Gulli l'envisage, hein, c'est-à-dire vraiment, bah, les gamins toute la journée regardent la télé, ils vont se coucher très tôt le soir. Et le soir, bah, c'est le programme pour la maman, tu comprends, voilà.
Five little angels were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta figure it out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la.
The little kids sing.
La 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 la.
Everybody sing.
La 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 la. We like monsters.
13h04, le
ouais,
temps pour
les zinzins d'espace. Les zinzins dans le studio également.
Alors, c'est le supplément week-end.
Donc les Indiens de l'espace, donc ce soir à 21h, hein, sur Gulli. Sinon, bon, bah, on change radicalement de sujet. Pas mal de petites choses inédites, hein, quand même cette semaine, avec le démarrage sur Canal Jimmy d'une filière hollandaise après la filière américaine. La filière anglaise, et voire la filière argentine, hein, par le biais d'Epitaphios. On a une filière hollandaise qui va nous procurer de nouvelles séries complètement inédites. C'est sur Canal Jimmy ce soir à partir de 20h45. Hein. C'est un soap hollandais qui s'appelle Secret d'héritage, ou dans le titre original Maiden van de Witt. 12 épisodes de la première saison vont nous apprendre quelle est la vie de famille dans une famille bourgeoise très nombreuse et dont les ressources principales sont l'industrie laitière aux Pays-Bas. Alors bon, ça louche fortement du côté de Dallas, hein, pour les trucs à rebondissement, ça peut être de tous les côtés. Les jeunes filles qu'on peut voir sur les différentes photos ont l'air assez affriolantes, hein. Bon, on est dans l'industrie laitière, hein, n'est-ce pas?
Oh, non.
Si, si. Avec Yann Declair, entre autres, né de Soutendijk, c'est ce soir 20h45, trois épisodes, quoi, à la suite. Donc, les filles de Witt, funérailles et une nouvelle laiterie, ça s'invente pas ce soir sur Canal Jimmy. Sinon, pour continuer la déconne, non, là j'ai interverti. Là, on passe à un sujet un petit peu plus grave avec les Master of Horror qui sont diffusés sur Canal+. Alors, séance de rattrapage demain soir en ce qui concerne les deux premiers téléfilms qui avaient été diffusés vendredi dernier, hein, demain soir à minuit pile, hein, d'abord le Homecoming de Joe Dante suivi de la fin absolue du monde de Carpenter. Vendredi prochain, les deux Master of Horror diffusés par Canal+, à partir de 22h45, après l'excellent mini-série en deux parties qui s'appelle Elisabeth avec Hélène Mirren dans le rôle titre. C'est vendredi prochain à 20h45 sur Canal+. À 22h45, donc le premier, c'est de Dawn Coscarelli, la survivante, avec John DeSantis, Brie Turner, Angus Scrimm et Ethan Embry.
Il est pas terrible celui-là.
Ethan Embry qu'on a vu dans L.A. Dragnet, aux côtés de Ed O'Neill, Eva Longoria et les autres, et Roselyn Sanchez et toute la bande. Suivi de La Cave de William Malone, avec Lindsay Pulsifer, Jesse Haddock et Laurie Petty. Tout ça, c'est vendredi prochain, donc, dans le cadre de la série des Master of Horror. Ce soir, dans New York, unité spéciale, à 23h10, toujours la saison 7. Les deux épisodes sont de la saison 7, dont le deuxième est le dernier épisode de la saison 7. Ah là, ouh, ça risque de chauffer pas mal. Le premier s'appelle Hérédité criminelle, avec Joël de la Fuente dans le rôle principal, hein, le rôle du mec pas très recommandable, on va dire. Et la semaine dernière, je me suis planté parce que je vous avais dit que ce serait une nouvelle aventure qui concernait le fils de Tutuola. C'était pas du tout le cas, hein. C'était plutôt l'histoire d'un mec vraiment une ordure, quoi, vraiment un truc. Un enfoiré de première et tout, interprété magnifiquement par Lou Diamond Phillips. Alors là, ça valait vraiment son pesant de cacahuètes, à tel point que bon, à la fin, ils essayent même pas de l'amener devant un tribunal, ils le dégomment carrément, tu vois, quoi. Bon, allez dégager, comme ça on n'en parle plus, ça suffit, t'as assez fait de mal et tout, enfin tu vois, genre quoi, bon.
Alors tu disais
avec le consensus, hein, disant tous les flics et tout, bon, sont là, ok, pas de problème, ça marche.
Alors tu disais à l'instant que tu t'étais planté la semaine dernière. Alors moi j'ai eu des remarques de certains auditeurs qui ont souligné que tu t'étais planté il y a 3 semaines quand tu avais parlé d'Alan Moore qui aurait scénarisé Dark Knight Batman. Donc ce n'était évidemment pas Alan Moore mais Frank Miller. Et par contre Alan Moore a scénarisé une autre aventure de Batman qui avait le très haut Joker.
Ouais, voilà. C'est ça. Ouais.
C'était Sourier.
Voilà, c'est ouais. King Joke ou je sais plus comment
ouais,
ça
oui,
s'appelle.
Voilà. Titre original, ouais.
Non, mais ça le mérite d'être souligné.
Je suis pas spécialiste de BD, spécialement, tu vois. Bon, voilà quoi.
J'ai tout, laissé ouais. passer, je suis désolé.
Ok. Ce soir, ça va quand même être un petit peu la bagarre parce qu'il y a plusieurs choses qui ont l'air assez intéressantes. Hein, outre le soap hollandais dont je viens de parler sur Jimmy, sur 13e rue, eh bien, on nous propose de l'italien, pourquoi pas, hein, une série de téléfilms, deux téléfilms à la suite, hein, d'1h45. Ultimo, première mission, ça date de 98, donc assez récent. Et c'est réalisé par Stefano Reali avec des gens qu'on connaît relativement, hein, Raoul Bova et Paolo Seganti, ils sont quand même relativement connus, on va dire. Il y a également Francesco Benigno et Simone Corrento. Ça dure donc toute la soirée, hein, ça commence à 20h50. Le deuxième épisode, le deuxième téléfilm, on va dire, commence à 22h35, où figurent également Rita Del Piano, Nicole Grimandi et Ricky Memphis. Qu'on a vu également dans les films de Tognazzi, hein, le fils de Hugo Ricky. Donc tout ça c'est ce soir sur 13e rue Ultimo.
En VO ou en VF hein.
C'est de la VF, hein, c'est sur 13e rue donc il y a pas
ah
de
ouais, non parce qu'en général la VO sur l'italien ça marche mal parce que t'as les ouais. sous-titres qui cachent les mains donc tu perds l'accent.
En tout cas ça peut être regardé. Bon, le sujet est archi battu, mais enfin bon, quand c'est les Italiens qui s'y connaissent, ils sont les mieux placés, hein, de toute façon, hein, ça raconte la lutte d'un flic qui lutte contre un parrain de la mafia. Bon, le sujet est bateau, mais quand c'est bien traité, des fois les Italiens savent très très bien le faire, ça peut être vraiment quand même bien pétant, bien que le sujet hein, soit archi battu, quoi. 1, 2, 3, voilà, My Name is Earl, je vous en ai pas parlé, la grande honte à moi, My Name is Earl, une série tout simplement génial, faut dire ce qui est. Hein, je disais la même chose d'ailleurs à propos de Scrubs quand ça passait également au même horaire sur Paris Première, hein, c'est-à-dire les week-ends à 19h55 hein, pour concurrencer les infos Bah, c'est tout simplement génial, hein. Regardez ça, ça vaut vraiment le coup. Il n'y a pas de problème. Deux épisodes donc diffusés le samedi soir et le dimanche soir à partir de 19h55 sur Paris Première. Alors comme c'est en version multilingue, on peut le regarder en version originale, mais la version française est pas mal du tout, franchement. Avec deux épisodes de rattrapage, ceux qui ont été diffusés dimanche dernier, c'est le mauvais génie et concours de beauté. Et demain, donc, à la même heure, les deux épisodes inédits, le roi du golf et tous mes vœux de bonheur, qui sont rediffusés également le jeudi soir sur Paris Première en deuxième partie de soirée à partir de 22h40. Et là, tu m'as pas calé le générique, c'est con. J'ai, tu vois, émission mal préparée, effet gâché.
D'accord, ok. Hein, qu'est-ce qu'il faut que je cherche?
Eh ben,
D'accord, je l'ai.
Non, mais je suis en train de meubler là.
Et ça?
Space, a final frontier.
Ah non, c'était pas ça.
Non, c'était quoi alors?
C'était pas les Star Trek.
C'est Doctor Who, bien sûr.
Qui... Ah, punaise! Mais en plus, ils sont plantés dans le planning. D'accord, ok. Bah,
alors là, bah, franchement, ouais.
c'est une honte.
Es catastrophique aujourd'hui.
C'est une honte.
Mais j'aurais dû le prévenir, hein, de toute façon. Hein. Honte à moi, surtout, quoi.
C'est Justified un Chant of Moumou, alias KLF, sous le nom de Time Lords. Et il faut savoir donc que le mec qui a composé ça, c'était le batteur de Big in Japan. Et c'était en 89.
Il te plaît ce morceau-là, tu te fais plaisir. Hein.
Ah oui.
Doctor Who, donc, qui eh ben, à l'honneur du prime time sur France 4. Hein. France 4 est la chaîne qui diffuse Doctor Who. Même en version originale, mais là il faut attendre un peu plus tard le soir. Là en 20h40, deux épisodes lundi prochain sur France 4. Le premier s'appelle La fin du monde, dans lequel Christopher Eccleston il va partir 5 milliards, il va faire un voyage dans le temps de 5 milliards d'années.
Pour assister à la destruction de la Terre.
C'est un pari avec la petite Rose qui dit c'est vraiment une machine dans le temps. Ouais, tu veux aller où? Tu veux aller où? On va au plus loin.
Et le deuxième s'appelle Des morts inassouvis, et qui parle plus loin d'une rencontre avec Charles Dickens, où il redescend dans le...
Il est très,
voilà,
très bien.
Voilà, c'est deux épisodes de la saison 1 avec Christopher Eccleston, donc, et Billy Piper. C'est lundi sur France 4 à partir de 20h40. Et j'ai pratiquement terminé. Si il y a le match du mercredi. Il y a un match chaque mercredi.
Ouais, avec Lyon.
Non, c'est mardi, Lyon.
Ah, donc mercredi, c'est Bordeaux, alors.
Mercredi, c'est le match des téléfilms français sur les différentes chaînes.
Ouais, t'es pas encore au sport, mais j'aurais dû m'en douter.
Là, c'est même pas un match, on pourrait même parler de triolisme, car il y a carrément trois chaînes qui proposent leur téléfilm inédit ce mercredi prochain. Sur TF1, Camping Paradis, hein, on en a beaucoup parlé parce que son interprète principal, eh bien, Laurent Ornac, avait fait bien parler de lui dans cette émission, cette fausse émission télé-réalité qui s'appelle Mon incroyable fiancé. À ses côtés, c'est l'histoire de d'un mec qui vient de la ville et qui hérite d'un camping, donc il connaît rien et donc il doit reprendre les affaires. Ça surfe un petit peu sur le succès du film Camping.
Le
je sais pas
business
quoi.
Du camping, nudisme rapporte-t-il? Et peut-on se faire une place au soleil? Tout de suite dans Capital.
Outre Laurent Nournac dans le rôle principal, il y a également Princesse Erika et Julien Cafalo dans les rôles principaux. C'est mercredi prochain sur TF1 à 20h50. Même horaire de toute façon pour les trois chaînes. France 2 vous propose... Ça peut être plus intéressant, mais plus plombant pour une soirée. C'est Les Innocents, un téléfilm de Denis Malval dans lequel on verra Olivier Marchal dans le rôle principal et jouer un rôle complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir jouer, c'est-à-dire le flic, ce qu'il a été de par le passé. Là, eh bien, il joue le rôle d'un mec qui a perdu sa femme et donc qui revient sur sa vie passée avec sa femme et il cherche à comprendre ce qu'il a loupé, enfin bon, plein de choses comme ça, tu vois. Et ça dure 1h45. Olivier Marchal dans le rôle principal avec Stéphane Freys et Julie Voisin. C'est sur France 2 et M6 vous propose un inédit d'Elodie Bradford Record qui s'appelle Intouchable, avec Armel Deutsch dans le rôle titre. Il y a Jean-Pierre Michael et Didier Besas, hein. Tu vois, on fait quand même du lourd quand même. Le mercredi, donc, match à 3 pour ces différents téléfilms français. Sinon, le must, ça reste quand même demain. Ça, bon, en fait, ça commence ce soir sur TMC, mais c'est surtout demain qu'il faudrait être devant sa télé à partir de 9h50, car c'est la fête nationale monégasque sur TMC en direct à partir de 9h50 jusqu'à 12h35. 12h35, heure à laquelle, eh bien, on pourra voir un superbe documentaire qui s'appelle Son Altesse Sérénissime Albert II, l'an 1 de la modernité.
Et de l'argent des mafias russes.
Histoire de dire Régnier, vieux crouton et tout, c'est bon. Tout ça sur TMC, donc ça commence ce soir avec déjà deux documentaires qui vont être diffusés, mais surtout demain matin à partir de 9h50, le direct, le défilé et tout, le défilé. Est-ce que tu loupes le défilé, franchement, quoi?
Oui.
Le 14 juillet, quoi.
Du 14 juillet, oui.
Trop tôt. Là, c'est le défilé de la fête nationale monégasque, donc ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est demain matin sur TMC. Et c'est tout.
It was an excellent show tonight. It's a supreme weekend of radio, FMR. C'était émission numéro 92, je crois, si je me trompe.
Oh, sans doute, ouais.
Ouais,
sûrement. Zola.
Et...
Il va préparer la centième, hein. Commencer à réfléchir.
Ouais, j'y réfléchis de plus en plus, mais malheureusement, ça va tomber en pleine période d'Angoulême. Ça va être, à mon avis... Je crois qu'on va faire très fort, encore une fois.
Ben, ça va tomber en période d'Angoulême, puisque pendant la période d'Angoulême, il n'y a pas de supplément week-end.
Oui, mais bon, ça sera en plein dans le débrief, donc voilà, donc d'accord. Ça va être assez chaud, quoi.
Ah oui.
Thomas, peux-tu faire un résumé pour ceux qui nous ont écoutés, qui sont arrivés en cours d'émission et qui ont manqué le début?
C'était une spéciale Zinzin dans le studio, avec un morceau d'intro loupé, une musique arrêtée en plein milieu, une interview de Nikita Mandrika. Il y a eu un morceau interprété par ce même auteur également, une bouse et un chef-d'œuvre cinéma, une erreur de calage de CD, un anniversaire en direct d'Adrien, une alerte cul de la BD politique, Xavier qui zappe Doctor Who et le match du mercredi.
Il y a eu vraiment du monde au balcon, c'était quand même une... On était bon, on était à niveau, je pense. Surtout qu'on peut réécouter sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Vous trouvez une partie des rubriques écrites et vous réécoutez aussi les émissions. Et en plus, vous pouvez commenter nos rubriques. N'hésitez pas à poser vos questions, à dire Thomas, t'as quand même été salaud quand même sur Brian De Palma et ce genre de truc. Faut pas hésiter. On est ouvert. C'est www.radio-fmr.net.
Ou Xavier, arrête de chroniquer des BD complètement connes chinoises.
Je tiens à te signaler que la semaine prochaine, pour les 25 ans de Radio FMR, il y a Patrick Albret, oui. le patron, je vais dire, des éditions Tiaopan, qui nous fait l'honneur d'une visite. Donc voilà, retiens-toi de ce genre de choses. Peut-être qu'il est à l'écoute.
On lui dira, tiens.
Ouais, en tout cas, vous avez loupé la chronique off the record du film Short Bus, quoi. Ça valait peut-être mieux.
Ça valait pas mal.
Ouais, merci.
Ouais, bah oui, bah que voulez-vous, sur FMR, ça se passe aussi des fois pendant les disques. La suite des programmes sur Radio FMR avec à 15h il y aura scène transmission, 16h le potager, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 19h protésez-vous, 20h la stéréo expérience. La stéréo expérience, ça ferait pas mal, tiens. Des fois je parle un peu vite. Et 21h30, stay tuned, nos émissions sont en direct jusqu'à 5h du matin sur les 89.1 MHz. De suite c'est du sport. Et pendant ce temps
pour la semaine prochaine, nous aurons peut-être un dossier sur le film Borat. Ah. Il est peut-être question qu'on y aille, un fort pourcentage de cette équipe aille voir Borat.
C'est-à-dire 100%, tu veux dire.
Bah, je sais pas, ça dépendait du sport.
À mon avis, du sport, vu que sa chère moitié fait les conseillers cubains sur les séries télé. On est fan, à mon avis, oui, on sera obligé. En attendant, on va caler professionnellement nos feuilles de papier pendant que l'image se fade. Voilà. Je vous laisse avec du ça. Thank you.